c'est des termes qui vous parlent, qui sont conceptuellement philosophiques, ou bien c'est juste de la communication?
Vous me demandez de vous juger, là. Êtes-vous un communicant, ouais. Non, et évidemment, si on les prend en eux-mêmes, les deux, et aussi leur liaison, est-ce que toute liberté n'est pas rebelle? Existe-t-il une liberté soumise, une liberté d'accepter, etc.? C'est évidemment des questions philosophiques, ça, il n'y a pas longtemps de doute. Par ailleurs, c'est aussi des questions de caractère politique, malgré tout. Liberté, rébellion, les rebelles, qui sont les rebelles? Enfin, je crois que nous sommes quand même dans la périphérie de la philosophie.
Et le fait que l'intitulé peut être lu indifféremment au masculin ou au féminin, ça vous intéresse?
Ah oui, ça c'est tout à fait intéressant. De toute façon, ces questions du masculin et du féminin sont toujours passionnantes. Et il est vrai que la liberté est la rébellion, après tout. Est-ce que le genre des mots est significatif? Oui, je pense qu'il l'est toujours par certains biais, et on est extrêmement surpris des variations d'une langue à une autre. Nous avons tellement pris l'habitude, par exemple, de dire le soleil et la lune, que l'allemand nous surprend en fonctionnant autrement, parce que c'est un autre système de métaphore. Mais qu'un registre soit féminin, ça a du sens. Oui.
Alors, Alain Badiou, on vous présente, quand on vous présente publiquement comme aujourd'hui, on vous présente en ébauchant une sorte de grande liste très longue de toutes les activités auxquelles vous vous livrez. Alors, on dit. Il est philosophe, mais c'est aussi un militant et un théoricien politique, mais c'est aussi un homme de théâtre, mais c'est aussi un romancier. Je me demandais si cette façon de vous présenter n'avait pas un inconvénient, dans la mesure où on a l'impression de faire de vous une sorte de virtuose éclectique, alors que peut-être qu'il y a, et vous me dites si vous le voyez comme ça, il y aurait une autre façon de vous raconter, si je puis dire, en disant que tout ça, la philosophie, le théâtre, la littérature en général et la politique, pour vous, au fond, c'est la même chose. Enfin, il y a une unité dans la multiplicité, on va en parler, mais il y a une unité parce que ce sont à chaque fois des façons de penser. Et si ce sont à chaque fois des façons de penser, ça veut dire qu'à chaque fois, il s'y passe ce que vous appelez des procédures de vérité. Est-ce que, bon, on ne va pas vous présenter comme ça, en disant Alain Badiou, merci d'être venu nous parler des procédures de vérité, mais est-ce qu'au fond, ça ne serait pas plus juste?
C'est toujours difficile d'être présenté quand on est philosophe comme un spécialiste de quoi que ce soit, même un spécialiste des vérités. Parce qu'il y a tout de suite quelque chose de commercial dans la spécialité. Je viendrai vendre mon type de vérité particulier et j'essaierai de prouver que la vérité que je vous vends est meilleure que celle que les autres vous vendent. En réalité, la diversité des occupations, je la décrirais plutôt comme une sorte de nécessité d'une vaste enquête philosophique sur l'état de la diversité des pensées, des entreprises, des nouveautés, des actions, des inventions. Ça n'est pas que le but n'est pas du tout encyclopédique. C'est pour ça que aligner les disciplines n'est pas intéressant. Il ne s'agit pas de faire une encyclopédie. Mais il s'agit de le philosophe soit quand même contemporain de son propre temps du point de vue de ce qu'il estime que ce temps porte comme création, comme nouveauté. Et moi je dirais à la fin des fins, le philosophe est un peu celui qui s'intéresse à ce que sa propre époque peut produire comme nouveauté universelle, comme nouveauté ayant une résonance, une valeur, une portée universelle. Et de ce point de vue-là, il n'est pas, à mon avis, ne peut pas être le spécialiste d'une discipline constituée et fermée sur elle-même. Historiquement, je pense que nous héritons tout cela, nous Français, soyons un peu nationalistes.
Nous, ça n'a pas duré.
Non, c'est pas ma tasse de thé. Mais soyons dans l'héritage historique. Je pense que c'est quand même, nous sommes quand même encore liés à la figure du philosophe au sens du XVIIIe siècle, nous, Français. Il y a le philosophe qui est à la fois philosophe, aussi très souvent un écrivain. Écrivain qui peut être un écrivain de théâtre, un écrivain d'essai, un écrivain, même un bon nombre de genres de notre panthéon littéraire est constitué de philosophes. Pascal, Rousseau et beaucoup d'autres. Il est aussi un homme public, il n'est pas quelqu'un qui prend position à faire Calas, à faire Sirven, Voltaire, tout ça. Et donc, en fin de compte, cette multiplicité de rapports au monde, elle est comme ce que la philosophie va, non pas exactement rassembler, juxtaposer, mais ce à partir de quoi elle va penser, en venant et en y retournant. C'est-à-dire, elle va venir de là, elle va se demander qu'est-ce qui est en jeu dans les inventions scientifiques, quelles sont les nouvelles figures des formes artistiques, qu'est-ce qui change dans les mœurs, qu'est-ce qu'il se passe au niveau des rapports amoureux et sexuels, etc. Il va s'interroger sur tout ça et il va en tirer quelque chose, peut-être quelque chose qui leur est commun ou quelque chose qu'on peut dire à propos de tout cela. Et il va revenir à cette expérience avec cette première formalisation, cette première conceptualisation. Donc c'est un va-et-vient. Ça va bien dans ce que moi j'ai appelé, dans mon jargon, les conditions de la philosophie et la philosophie elle-même. Et pour moi, il est au fond assez naturel de parcourir l'espace des activités.
Alors ce que vous dites explique que quand vous parlez de l'art ou du théâtre, vous approuvez, dites-vous, les inventions, les expérimentations. Quand vous êtes du côté des références philosophiques, vous êtes volontiers à proximité, disons, d'auteurs qui sont aussi des auteurs novateurs ou en rupture. Bon, je pense à des liens avec des penseurs qui n'ont pas les mêmes a priori que vous, mais avec lesquels vous êtes en dialogue. Je pense à Deleuze, évidemment, à Lyotard, à Derrida, etc. Donc vous êtes de ce côté-là de l'invention, de l'innovation. Et puis, quand on vous lit, on tombe rapidement sur alors, une autre figure qui est celle de l'universalité, on a commencé à en parler, et puis une autre référence très massive qui est celle de Platon. Et enfin, c'est parfois étonnant pour de jeunes lecteurs de se dire, ben voilà, ce penseur qui a l'air d'être du côté, disons, de la rupture, de là où ça bouge, qui en plus politiquement prend des positions qui sont très, très, très claires. En même temps, il a des références à Platon, qui est quand même pas un tout jeune, si je puis me permettre. Et puis, il tient un certain nombre, non, je ne dirais pas de valeurs, mais de concepts, comme l'universalité, etc. Alors, cette alliance n'étonne pas vraiment un philosophe, mais elle peut être étonnante pour des lecteurs qui vous découvrent.
Et oui, mais c'est parce que dans le va-et-vient, parlais à l'instant, c'est-à-dire dans cette manière qu'a le philosophe tel que je le vois, d'être partie prenante d'un espace d'activité et de création extrêmement varié et multiforme, et d'être contemporain de tout cela. Et puis le moment où, en tant que philosophe, il concentre quelque chose de tout cela dans une formalisation conceptuelle. Et puis le troisième moment où il revient à cette expérience, en l'éclairant à ses propres yeux en tout cas par cette concentration, il se passe quand même un va-et-vient par en dessous entre le particulier et l'universel. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas que la chose soit réduite à son concept, c'est que on voit qu'elle se dispose comme une sorte d'invention dont la portée, dont la valeur, dont la puissance subjective peut être finalement en droit partagé par tous. Alors quand on a dégagé ce point-là, on se situe à un niveau où, d'une certaine façon, les opérations qu'on met en branle sont tout à fait similaires à certaines des opérations menées par des grands philosophes du passé. Ils ont été eux-mêmes les contemporains de leur propre temps. Platon, c'est quelqu'un qui s'est aussi vigoureusement intéressé au théâtre. On prétend même qu'il avait écrit des tragédies et que, suite au traumatisme qu'a représenté la mort de Socrate, il les a brûlés. Et il s'est évidemment intéressé aux mathématiques de son temps, il s'est activement intéressé aux activités de la cité, il était un fin connaisseur de la poésie, et puis comme on sait, il a aussi introduit l'amour qu'un certain nombre des relations dans ce va-et-vient, évidemment, ont des paradigmes, ont des modèles anciens, et à ce moment-là, on devient, en quelque manière, contemporain, non seulement de son propre temps, mais de l'histoire entière de la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parfois le sentiment de parler avec Platon, pas simplement de le lire comme un auteur du passé, mais de parler avec lui. C'est pour ça, d'ailleurs, que je finis par me prendre pour lui et par parler à sa place. C'est-à-dire de me dire, eh bien, au fond, puisqu'il a déjà fait tout ça, je vais le lui faire faire maintenant, voilà. Et qui pourrait le faire mieux que moi? Personne.
Non, Alain Badiou a écrit La République.
Oui, oui, c'est une tentative. Alors, c'était pour formaliser tout ça. Et puis, voilà le livre peut-être le plus connu de l'histoire de la philosophie occidentale, La République de Platon. Voilà un livre qui rassemble, en fait, tout ce qu'on vient de dire. On y trouve les références aux mathématiques, à la politique, à la poésie, au théâtre, au transfert amoureux. Et alors, imaginons que cet homme-là ait affaire non pas seulement aux limites de son temps, aux particularités de son temps, mais à quelque chose de plus vaste, par exemple toute l'histoire de lui jusqu'à moi, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait, quelle transformation ça imposerait au texte. Et alors, pour m'exercer à ça, je refais le texte, quoi. Je l'ai traduit, réécrit, voilà. Et donc, c'est un livre dont on ne connaît pas l'auteur. Quelque part entre Platon et moi, mais ce n'est ni l'un ni l'autre exactement. Cependant, il doit encore répondre à Platon, parce que je suis tout de même parti par le texte grec.
Alors, la référence à Platon et puis cette dimension d'universalité, vous la mettez en avant lorsque vous parlez, par exemple, d'art ou de théâtre. Je pense au dialogue que vous avez sur le théâtre qui a été publié sous le titre Éloge théâtre récemment. Et là, vous dites que le théâtre, il est menacé à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Et la référence à l'universalité, enfin, peut-être que je vais trop vite, mais vous me corrigerez, elle vous amène aussi à marquer des distances, des rejets, des refus, vis-à-vis de certaines positions très radicales, qui mettent en péril, par exemple, la spécificité du théâtre. Position que vous appelez gauchiste, ce qui est assez plaisant pour certains de vos lecteurs, je suppose, dire tiens.
J'ai horreur du gauchisme.
Oui, oui. Oui, enfin bon, les amalgames se font tellement rapidement. Voilà. Et dans d'autres domaines, par exemple, il y a chez vous, pas une défiance, mais disons une critique, une ébauche de critique des avant-gardes. Et dans d'autres domaines, comme par exemple le très beau livre sur l'amour. On voit que vous mettez évidemment l'amour du côté de la liberté, pas de la transgression, mais de la liberté, mais en même temps, vous en avez une approche plus institutionnelle aussi. Est-ce que cette référence à l'universalité, elle est porteuse pour vous aussi de normalité, ou de, sinon de normalité, du moins de limitation?
Là, il faut reprendre les choses peut-être un tout petit peu en amont, pendant un moment. D'abord, je veux préciser que pour moi, ce qui a valeur universelle dans l'expérience humaine ne se présente pas du tout comme quelque chose de transcendant, d'extérieur, etc. Ce qui a d'universel est toujours produit, c'est une production, c'est une création interne, toujours à un lieu particulier, naturellement. Et donc, cela surgit, se constitue, apparaît dans des conditions déterminées. Donc, je ne peux pas, moi, séparer, à proprement parler, l'universel du particulier, puisque je sais que ce qui a été créé par les hommes, qui a une valeur universelle qui peut être partagée par tous, dont le futur montrera que ça peut être partagé par tous, c'est aussi quelque chose qui est apparu un jour, quelque part, dans des conditions déterminées, et qui, d'une certaine façon, reste quand même marqué par cet acte de naissance. Nous sommes tous par nos origines natives. Si on pense à un exemple tout à fait banal d'universalité aujourd'hui à peu près reconnue, à savoir la science mathématique, qui est la même aujourd'hui dans le monde entier, on voit cependant bien qu'elle s'est constituée dans des conditions particulières. Sa première formalisation systématique est Tout ça est une histoire de l'universalité. Et l'universalité, elle se constitue en processus. En tout cas, quand je bannis l'universalité, c'est toujours dans un lien profond avec l'idée de création, avec l'idée de quelque chose qui apparaît et qui surgit. À partir de là, on sait très bien que tout ce qui existe sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme d'un processus, est toujours tiraillé, divisé par une sorte de contradiction fondamentale, qui est d'un côté de vouloir arracher complètement la création à son sol natif, si je puis dire, aux conditions particulières qui sont les siennes, c'est-à-dire d'en faire une nouveauté absolue, et de l'autre de dire au contraire que finalement tout ça est l'effet interne aux conditions, que la nouveauté n'est pas absolue, que peut-être il n'y a pas de nouveauté du tout. Je pense à ce personnage de Claudel qui vante longuement la nouveauté, qui termine sa tirade en disant « Nous aimons le nouveau. Le nouveau, pour qu'il soit exactement semblable à l'ancien. » Alors ça, c'est vraiment l'autre aspect. Alors, évidemment, ça m'amène, en tant que philosophe, à ce qu'on pourrait appeler une espèce de lutte sur deux fronts. Défendre la création des vérités universelles dans le registre de l'art, de la science, de la politique et de l'amour, par exemple, en tant que cette création a réellement une valeur universelle, mais ne jamais oublier que cette universalité est créée, inventée dans un monde particulier. Et par conséquent, la lutte sur deux fronts, c'est contre ceux qui prétendraient que la création peut entièrement, sous la forme d'une avant-garde séparée, s'isoler de son contexte et être absolue, et d'autre part, la ligne conservatrice qui ramènerait, qui rabattrait la nouveauté sur ces conditions. Alors effectivement, vous avez raison, ça veut dire que je ne suis ni pour les avant-gardes autoproclamés qui se distingueraient des conditions et de l'histoire par le thème d'une nouveauté radicale, absolue, entièrement inédite, et évidemment par ailleurs je suis contre les réactionnaires qui prétendraient ramener tout ça aux conditions existantes ou qui le blagueraient et le condamneraient au nom de la tradition.
Entre les deux, il y a le choc ou l'avantage de l'avoir lieu. Enfin, je suis sensible à ça quand je vous lis, que ce soit dans les domaines différents dont vous parliez. Cette dimension-là, le fait que quelque chose soit possible, est-ce que pour vous cette notion de possibilité est, disons, structurante pour votre pensée ?
Elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale, mais il faut bien la comprendre. Un de mes maîtres paradoxaux, Jacques Lacan, disait que le réel, c'est l'impossible. Et j'écoute cette formule, parce que, en réalité, la question de la possibilité est aussi, par conséquent, la question de la création possible. La question de la possibilité, il faut savoir qui en décide. Je pense que la tendance massive d'une institution, d'une organisation, de l'État, finalement, sa tendance massive, c'est de déclarer et d'instruire ce sur quoi il a pouvoir de la différence entre ce qui est possible et impossible, au nom de la réalité. Vous savez qu'en politique, quand on commence à vous parler des réalités, il faut se méfier tout de suite. Ça va vouloir dire qu'il faut leur obéir. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que les réalités s'y opposent. Ça, c'est un enseignement très profond pour le philosophe, qui est qu'il y a une manière de manier la distinction entre le possible et l'impossible, qui, en fait, exclut qu'il puisse y avoir une possibilité considérée comme impossible, c'est-à-dire une nouvelle possibilité. Or, finalement, qu'est-ce que c'est que la création ? La création, c'est pas fondamentalement une nouvelle réalité, c'est la découverte d'une nouvelle possibilité. C'est ça l'invention, la création. Lorsque vous avez une nouveauté artistique, par exemple, plutôt dans le domaine de la musique, prenons ça, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le fait qu'on va accepter, on va montrer qu'on peut écrire de la musique avec des accords, des tonalités, des résonances considérées antérieurement comme impraticables, comme impossibles. Par conséquent, c'est vrai que le réel de l'invention est du côté de l'impossible. Il est du côté très chose qui était impossible devient possible. Et donc, tout le point est de savoir non pas tant ce qui est possible, mais plutôt quelle est la possibilité du possible, quelle est la nouveauté possible du possible dans ce qui est ordinairement, au niveau conservateur, décrété comme impossible, contraire aux réalités, etc. Alors, de ce point de vue-là, la possibilité, c'est fondamental, mais la possibilité, au fond, elle ne peut être découverte que dans son avoir-lieu, pour reprendre votre expression. C'est ce que j'appelle un événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est quand il se passe quelque chose qui, en fait, remet en question la frontière entre le possible et l'impossible. Voilà. Et ça, ça n'est pas quelque chose qu'on peut décider, qu'on peut décréter. Ça n'est pas un pouvoir qui peut décider de cela. Le pouvoir, lui, est bien installé sur une différence établie entre et l'impossible, et c'est d'ailleurs ça qui lui donne son pouvoir. Et il dit aux gens, ne vous aventurez pas de ce côté-là, c'est impossible. Un événement, c'est quand, justement, ce qui était déclaré impossible s'avère peut-être, c'est jamais absolument certain, s'avère peut-être possible. Et là, j'y, à mon sens, la vraie liberté et aussi l'universalité. Alors ça, c'est un point très important. Si vous êtes intérieur dans une institution, un pays, une civilisation particulière, si vous acceptez purement et simplement la distinction entre le possible et l'impossible faite par cette situation particulière, vous êtes entièrement enfoncé dans le particulier. Pour qu'il y ait de l'universel, il faut qu'une exception surgisse à cela. Ça n'est jamais ce qui est coutumier qui devient universel, mais ce qui est exceptionnel. Ce qui, au début de son ce qui est exceptionnel, parce que comme c'est exceptionnel, ça n'est pas réduit à la loi du monde dans laquelle ça se trouve. Et donc on peut résumer tout ça, finalement, en disant l'événement, c'est quand il se produit dans une situation particulière, dans toutes les situations, quelque chose qui met à l'ordre du jour une possibilité inconnue. Une possibilité inconnue, c'est toujours quelque chose qui était considéré comme impossible. Et ça a une importance énorme parce que la liberté de quelqu'un, même d'un individu, ça n'est pas de pouvoir, dans la situation, faire ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, probablement, est interne à la situation. Donc son vouloir va respecter, grosso modo, la limite entre l'impossible et le possible. C'est bien plutôt de découvrir qu'il est capable de quelque chose dont il ne se savait pas capable. C'est la définition que je donnais de la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas la liberté de se comporter normalement dans la situation. La liberté, c'est de participer au déplacement de la frontière entre le possible et l'impossible. Et ça, ça se fait quand on est en quelque sorte incorporé, transporté dans un univers de création. Et on peut en donner des exemples que tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas une chose. Ça peut être une rencontre qui va donner lieu à une passion amoureuse, qui va enflammer votre vie de telle sorte que cette vie va être absolument autre que ce que vous pensiez possible qu'elle soit. Ça peut être la participation à un mouvement révolutionnaire, collectif, qui fait que tout d'un coup, vous vous découvrez, vous, avec les autres, capable d'un type de protestation, d'un type de vouloir collectif qui n'existait pas, qui était même considéré comme ça peut être aussi une expérience que j'ai, que je fais propagande, ça peut être aussi quand après une longue errance sur un problème de mathématiques, vous ne comprenez rien, c'est nébuleux, c'est opaque, c'est des petites écritures qui grouillent comme ça, tout d'un coup prend forme la compréhension de quelque chose, la compréhension du problème et la lumière qui va vous orienter vers sa solution. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude intellectuelle. C'est exactement ce que je disais. C'est que vous découvrez que votre pensée elle-même, est à un moment donné, elle devient capable de ce dont, juste avant, elle se croyait définitivement incapable. Alors, cette découverte en soi-même d'une capacité inconnue, sous la pression, sous l'aiguillon de l'événement, de l'avoir lieu, eh bien, c'est ça qui, philosophiquement, constitue le centre de mon intérêt.
Historiquement, il y a des époques qui sont plus ou moins favorables à la l'invention et à l'avoir lieu, à l'événement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit dans une époque particulièrement hostile, ou est-ce que pour vous l'important c'est que de toute façon, quelle que soit la situation, on trouve les ressources pour y résister?
Je suis partagé. C'est-à-dire, mon acquisition de philosophe, c'est de maintenir un optimisme de principe. Pour la raison suivante, c'est que si je disais, moi, que notre époque, notre temps est fermé à la nouveauté créatrice, à la liberté rebelle, etc., je ne ferais que répéter ce qu'il raconte lui-même, finalement. Et donc, en réalité, je serais un mauvais prophète, un mauvais maître au regard de l'obéissance à la situation. Donc, je maintiendrai toujours comme principe que, quelle que soit la situation, il faut être à l'affût de cette modification du lien entre le possible et l'impossible. Il faut avoir le courage aussi d'un certain nombre de risques. Parce que les événements, il faut quand même aussi s'y exposer, en prendre le risque. Même si il n'arrive pas, il faut être dans une disposition qui serait plutôt de fêter d'avoir lieu que de s'y opposer. Et la philosophie, elle sert aussi à ça. Elle sert à armer l'existence du courage de sa propre exposition à ce qui arrive. C'est le défi du possible de la philosophie. Éduquer le courage de l'exposition de soi à ce qui arrive. Et ce qui arrive à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement les événements historiques, c'est aussi les événements existentiels. Les rencontres, les transformations, les fascinations, une œuvre d'art qui vous frappe singulièrement. Y rester exposé. Et c'est pour ça, soit dit en passant, que je prenais position concernant l'amour sur une vision calculatrice de la chose. C'est-à-dire chercher sur Internet, avec des paramètres précis, celui qui est comme vous, quoi. Celui qui ne va pas vous embêter dans la vie. Hein. Celui à qui vous allez faire un couple, là, bien harmonieux. Et je pense que ça, c'est quand même très, très, très propre à notre monde. C'est le calcul, la règle du calcul de l'existence, calculer l'existence et prendre une assurance contre tous les risques, y compris une assurance rigoureuse contre le risque d'être déçu, trompé, etc. Alors là, on voit bien, je maintiendrai d'abord cet optimisme de principe à ce niveau-là. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que, procédure par procédure, si on regarde la politique, l'amour, le développement des sciences, les sciences artistiques, les époques ne se ressemblent pas. Et évidemment, elles ont des particularités. Ce qui caractérise la nôtre, à mon sens, en son fond, c'est justement une tendance sécuritaire. Alors, ce que j'appelle tendance sécuritaire, c'est le fait de penser que l'existence doit être calculée au plus près si on ne veut pas qu'elle soit exposée à des risques trop grands. Alors, évidemment, ça donne des anticipations calculatrices extrêmement serrées. Par exemple, dans le domaine éducatif, c'est flagrant. Les parents vont veiller dès la maternelle au parcours scolaire des enfants parce qu'on ne peut pas prendre de risques là-dessus. On ne va pas leur reprocher non plus, ce n'est pas le problème. Mais c'est un symptôme sur ce qu'est notre société qui, en outre, idéologiquement, se considère comme, malgré tout, se considère comme terminal, c'est-à-dire comme l'ultime forme de société, puisque les rêveries, on en reparlera peut-être, les rêveries utopiques, l'idée d'une société organisée autrement, etc., sont considérées comme ayant conduit à des impasses éventuellement criminelles. Et donc, qu'on le veuille ou non, le capitalisme mondialisé paraît aujourd'hui comme la forme de inéluctable, en quelque sorte. Alors, ça, c'est pas propice quand même, c'est pas propice aux grandes inventions. C'est quand même une atmosphère assez fermée, et d'autant plus fermée que nous sommes aussi une société où on déclare constamment que tout est nouveau. Tout est nouveau. Il faut que, là, c'est les réalités, tout est nouveau, on est en retard, il faut courir après cette nouveauté, il faut nous remettre dans la course, on a pris du retard. Il faut des réformes immédiates, très importantes. Donc il y a une espèce d'agitation, comme ça, propagandiste et générale, mais c'est une agitation en surface. parce que le fond de l'affaire reste identique. Le fond de l'affaire, c'est quand même que la prospérité capitaliste se rétablisse, que les profits soient consolidés, que toute cette machinerie fonctionne. Et donc on est dans une période d'autant plus hostile au nouveau, au sens où on en parlait avant, qu'elle fait propagande sur la fausse nouveauté. J'appellerais l'agitation sur place, ou la nouveauté répétitive. Au fond, le modèle général de la nouveauté, c'est quand même la sortie d'un nouveau modèle de voiture. C'est ça. Et c'est quand même le paradigme de la nouveauté véritable. Et on voit bien qu'il y aurait l'idée de créer ça comme une espèce de bassin de capture, mais une attraction qui ferait que toute nouveauté serait ce genre. Y compris, par exemple, si finalement je change d'amour, je change de femme, eh bien je vais prendre un nouveau modèle. Je vais en prendre une plus performante.
Oui, c'est vrai,
une vieille plante.
Mais oui, mais c'est comme ça. C'est bien comme ça si on regarde comment ça marche. Comment la propagande commerciale, et finalement toute propagande est commerciale, fonctionne aujourd'hui. Donc, question, je pense que finalement, si on regarde de près, il se passe des choses. Il y a une jeunesse active qui veut même franchir un certain nombre de limites, inventer quelque chose. Et puis, dans le principe même, on ne sait pas, parce qu'il peut se produire. Il peut y avoir de l'avoir lieu incalculable. C'est le propre de véritable avoir lieu de faire incalculable. Et donc on va maintenir le principe que l'humanité reste ouverte à sa propre histoire. Mais d'un côté, le monde réel, la structure du monde réel, est en un certain sens plus sournoisement conservatrice que les vieilles sociétés traditionnelles. Parce que les vieilles sociétés traditionnelles fétichisaient la conservation, au moins. Elles ne se vantaient pas d'autre chose. Elles disaient, oui, les fils doivent faire comme les pères, et il faut continuer comme c'était, pour respecter les ancêtres, etc., etc. Aujourd'hui, vous savez bien que le discours est tout à fait différent, il faut réformer tout, il faut être dans le nouveau, il faut s'y approprier, on doit changer de métier quatre fois dans la vie, à bas les vieilles lanternes, etc. Or, en fait, ça recouvre l'immobilité fondamentale de l'univers tel